22h, passé de 15 secondes. Merci d'avoir choisi Europe 1. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
Nous constatons 14 638 cas confirmés ou possibles d'infection par Covid et nous déplorons ce soir 884 décès.
On mesure désormais l'ampleur des décès dans les EHPAD. Les premiers chiffres ont donc été fournis ce soir, chiffres encore provisoires, on y revient dès le début de ce journal. L'Île-de-France, face à des décès chaque jour plus nombreux, un hangar du marché de Rungis est réquisitionné pour servir de morgue, comme en 2003 au moment de la canicule. Le bac 2020 ne pourra pas se dérouler dans des circonstances normales. Édouard Philippe confirme ce soir que cette édition ne sera pas du tout comme les autres.
Il est donc à peu près acquis aujourd'hui, et même, disons-le, acquis définitivement, que les épreuves du baccalauréat ne pourront pas se dérouler au mois de juin comme elles se déroulent chaque année.
En période de confinement, la galère aussi des zones blanches. Comment travailler ou réviser quand on n'a pas de réseau? L'Europe va aider les États membres à financer le chômage partiel.
Nous le faisons pour l'Italie, l'Espagne et d'autres pays. Et nous le faisons aussi pour l'avenir de l'Europe.
Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui, notez-le, sera l'invitée exceptionnelle d'Europe 1 demain matin. Les Américains accusent la Chine d'avoir menti sur son bilan. Rapport cinglant des services de renseignement. On sera à New York avec Xavier Yvon. La tendance météo pour demain, humide au nord, beaucoup plus ensoleillé au sud. Avant un beau week-end, cette fois ensoleillé pour tout le monde. Ne manquez surtout pas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. La Bourse de Paris a, elle, terminé ce soir en légère hausse de 0,33%. On verra avec Claire Lemaître de boursier.com comment s'est passée cette journée sur les places financières. Claire qui sera avec nous d'ici une vingtaine de minutes. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview Echo. Ce soir, Carole Ferry reçoit Luc Le Sénécal, le PDG des tissus Saint James, le fabricant des célèbres marinières qui s'est momentanément reconverti dans la confection de masques de protection.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et le gouvernement a donc dévoilé ce soir une première estimation des décès de personnes âgées résidentes en maison de retraite. C'est un chiffre que l'on attendait et que l'on redoutait. Et effectivement, Virginie Salmen, le bilan est lourd.
Alors c'est encore un chiffre partiel, au moins 884 décès de personnes âgées en EHPAD et plus de 14 600 résidents contaminés ou avec de forts symptômes. Mais toutes les régions n'ont pas encore fait remonter leur bilan consolidé. La difficulté c'est de définir si un résident de maison de retraite est décédé ou non des suites du Covid-19. Pour ça, le médecin qui rédige l'acte de décès doit tenir compte des symptômes du défunt dans les jours qui ont précédé et cocher une nouvelle case Covid-19 qui existe depuis hier sur l'acte. Dans toute la France, plus de 26 000 malades sont hospitalisés, dont 6 400 en réanimation ou soins intensifs. Et parmi eux, ce soir, on compte 90 personnes de moins de 30 ans. La nouvelle encourageante du jour, c'est le nombre d'admissions de patients dans un état grave en réanimation qui diminue légèrement depuis 3 jours. On était à 458 admissions mardi, puis 452 hier et 382 aujourd'hui. C'est un bon indicateur de l'évolution de l'épidémie que scrutent les autorités sanitaires avec beaucoup d'attention, même s'il faut évidemment rester très prudent. On a seulement 3 jours de recul. Depuis le début de l'épidémie, on est à 12 400 personnes sorties guéries de l'hôpital. En revanche, on observe des excès de mortalité exceptionnels dans 2 départements, le Haut-Rhin et la Seine-Saint-Denis, le département le plus jeune de France métropolitaine.
Les précisions de Virginie Salmen du service Société d'Europe 1. Les patients continuent d'être évacués des régions submergées, l'Est et l'Île-de-France, par hélicoptère, par avion, par train médicalisé. Édouard Philippe a parlé ce soir d'exploits logistiques. Nous aurons à la fin du week-end transféré plus de 550 patients ventilés, intubés, a-t-il dit, chez nos confrères de TF1. Le Premier ministre qui s'est aussi exprimé sur le risque de pénurie de médicaments. C'est une des questions les plus sensibles que nous devons affronter actuellement, a-t-il dit. La consommation de médicaments liés à la réanimation explose dans des proportions jamais imaginées. Il y a donc des tensions partout dans le monde. Nous gérons au mieux les stocks, a dit Édouard Philippe. Un bâtiment du marché de Rungis en région parisienne a été réquisitionné par la préfecture. Il sera transformé en morgue à partir de demain. Il s'agit de désengorger les services des pompes funèbres, eux aussi saturés, Marion Dubreuil.
Oui, l'aménagement a commencé dès aujourd'hui dans un hall excentré et isolé des autres pavillons. C'est ce que tient à préciser la préfecture de police de Paris pour rassurer les commerçants de Rungis, des lits de camp pour accueillir, d'après nos informations, jusqu'à 1000 cercueils en attente de leur inhumation ou de leur crémation en France ou à l'étranger. Le but, vous l'avez dit, c'est de soulager les services funéraires régionaux, 1406 franciliens terrassés par le coronavirus, d'après les chiffres publiés hier par l'Agence régionale de santé. Il faut donc pouvoir gérer le flux et permettre aux proches des victimes de faire leur deuil avec dignité. Des salons funéraires seront donc aménagés à l'intérieur du bâtiment et dès lundi, les premières familles pourront venir s'y recueillir.
Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce n'est pas une première, hein. C'était déjà arrivé au moment de la canicule de 2003.
Oui, c'était à l'époque un entrepôt de 4000 mètres carrés, réfrigéré à 5 degrés, devenu momentanément la plus grande morgue de France, capable d'accueillir jusqu'à 2000 corps. Au final, seules 200 victimes de la canicule avaient transité par la morgue de Rungis pendant 15 jours environ. On ne sait pas encore s'il s'agit du même hall réquisitionné aujourd'hui. La différence notable cette fois-ci, c'est que contrairement aux victimes de la canicule, les morts du Covid-19 peuvent rester contagieux. Il faut donc redoubler de vigilance. Le Haut Conseil de la Santé publique a émis la semaine dernière une série de recommandations et notamment le maintien d'une distance d'un mètre minimum entre les corps et les proches qui viendront se recueillir.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Ce soir, Édouard Philippe a rappelé l'interdiction formelle de se déplacer malgré le début des vacances scolaires. Il y aura des contrôles et des sanctions. La règle est là pour nous protéger tous ensemble. La moitié de l'humanité est désormais placée en confinement. Près de 4 milliards de personnes. En France, ce confinement doit durer au moins jusqu'au 15 avril, sans doute plus. Ce n'est pas pour demain matin. Le déconfinement, a dit ce soir Édouard Philippe. L'exécutif envisage une levée des restrictions progressives qui pourraient se faire région par région ou bien en fonction des tranches d'âge. D'ici là, vous avez toujours l'obligation pour sortir, à condition bien sûr d'avoir un motif valable, de présenter votre attestation. Jusqu'ici, c'était uniquement sur papier. Et bien, à partir de lundi, du nouveau, une attestation numérique à télécharger sur votre smartphone avec un QR code à présenter aux forces de l'ordre. C'est une question qui tracasse énormément les lycéens de terminale et leurs familles. Le bac 2020 pourra-t-il avoir lieu comme prévu? Et bien, Édouard Philippe a livré des pistes ce soir sur TF1 sur ce à quoi pourrait ressembler cette édition, vraiment pas comme les autres.
Le baccalauréat, c'est une énorme machine à organiser. Et à l'évidence, cette machinerie annuelle ne va pas pouvoir être mise en œuvre dans de bonnes conditions. Il est donc à peu près acquis aujourd'hui, et même, disons-le, acquis définitivement, que les épreuves du baccalauréat ne pourront pas se dérouler au mois de juin comme elles se déroulent chaque année. Il va falloir organiser les épreuves du bac 2020 d'une façon totalement neuve et totalement originale. Soit elles auront lieu sur le fondement du contrôle continu, soit on peut espérer conjuguer à ce contrôle continu une épreuve qui serait organisée à la fin du mois de juin. C'est ce que j'ai demandé au ministre de l'Éducation nationale d'instruire. Il aura l'occasion de préciser très prochainement les conditions dans lesquelles le bac interviendront. Il faut avoir conscience que le bac 2020 ne se déroulera pas dans les conditions normales.
Édouard Philippe ce soir chez nos confrères de TF1 et une piqûre de rappel justement pour les lycéens de terminale et les étudiants qui souhaitent changer d'orientation. Ils ont jusqu'à 23h59 ce soir pour finaliser leur dossier sur la plateforme Parcoursup. Notez qu'Édouard Philippe, concernant les élections municipales cette fois, a indiqué que la décision serait prise le 23 mai afin de savoir s'il est possible d'organiser le second tour le 21 juin. De toute façon, il n'est pas question de revenir sur les résultats des 30 000 et quelques communes qui ont déjà un conseil municipal élu au premier tour. Et alors qu'une grande majorité des Français fonctionnent aujourd'hui en télétravail. On pense à ceux d'entre vous qui vivent dans ce qu'on appelle les zones blanches. Ça concerne aussi les étudiants, bien sûr, qui doivent pouvoir réviser. Le confinement se transforme alors en vraie galère. Stéphane Place, c'est le cas pour les habitants d'Escours dans les Landes.
Oui, Escours, 11 000 hectares, 800 habitants, et dès que l'on s'éloigne du bourg, déjà en temps normal, des difficultés pour se connecter. Depuis le début du confinement, la situation pose davantage de problèmes encore, explique le maire de cette commune des Landes, lui-même chef d'entreprise, Patrick Sabat.
Ça passait très mal, mais là, du fait que les gens sont confinés chez eux, et puis les gamins, on n'a plus de connexion du tout. Moi, je peux pas travailler, je peux pas faire de virement, je peux pas payer la TVA, c'est très très compliqué. On n'arrive pas à travailler avec les mobiles, et on n'arrive pas à travailler avec Internet, et souvent aussi, c'est pas soit déconnecté. Si on se sert du téléphone fixe, du coup, on a moins de puissance sur Internet.
Les devoirs à distance, pas vraiment simples non plus, comme le dit cette mère de famille des secours, Marilyn Dos Santos.
J'ai expliqué à la maîtresse d'école de mon fils ne ressemblant pas à Internet. Donc, elle a gentiment proposé d'envoyer les devoirs de mon fils en email à la mairie des secours. Et monsieur le maire, très gentiment, m'imprime les devoirs, me les fait emmener par un employé de la commune à ma boîte aux lettres tous les jours. On ne peut pas avoir une grande connexion vu qu'on est en zone blanche, là où j'habite.
Et même pour la fameuse attestation de sortie dont nous avons tous besoin, eh bien cette habitante des secours a été obligée de demander à des proches de lui imprimer un exemplaire qu'elle est allée ensuite photocopier dans une grande surface.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 en Nouvelle-Aquitaine.
Europe 1, Isabelle Millet.
Il est 22h10, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Et la Commission européenne propose aujourd'hui d'aider les États membres dans leurs plans nationaux de soutien à l'emploi face à une situation qui est bien sûr très inquiétante en France notamment, où 4 millions de salariés sont au chômage partiel, mais aussi en Espagne, 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi. Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. La Commission européenne propose donc d'aider à financer ce chômage partiel.
Oui, parce qu'il coûte très cher aux États, 11 milliards d'euros rien qu'en France par exemple. Donc l'idée, c'est que l'Europe vienne en soutien, vienne garantir la pérennité des dispositifs nationaux en mettant 100 milliards d'euros à disposition. La Commission estime que c'est très important pour permettre le redémarrage rapide des entreprises en sortie de crise, comme l'a expliqué la présidente Ursula von der Leyen dans un message vidéo en français.
Cet instrument permettra d'aider les pays les plus durement touchés et sera garanti par tous les États membres. Nous le faisons pour l'Italie, l'Espagne et d'autres pays, et nous le faisons aussi pour l'avenir de l'Europe.
Il faut encore que la proposition soit adoptée par les ministres des Finances et par le Parlement européen, mais techniquement, ça devrait marcher comme ça. La Commission européenne empruntera sur les marchés à des taux très bas, car elle est considérée comme très solvable, et elle accordera des prêts bon marché aux États. C'est intéressant sur le plan du mécanisme parce que ça revient à créer de la dette européenne, à mutualiser de la dette entre les Européens. Cette solidarité financière, c'est justement ce que réclament les pays du Sud et la France depuis une semaine. Alors ils veulent cela à plus grande échelle, mais c'est déjà un petit début.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Et notez que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sera l'invitée exceptionnelle de Sonia Mabrouk demain matin à 8h15 sur Europe 1. Première intervention dans un média français depuis le début de la crise. En Russie, décision radicale aujourd'hui. Les 30 prochains jours seront chômés, avril chômé, mais payés, promettent les autorités. Aux États-Unis, 10 millions de personnes sont désormais inscrites au chômage. La pandémie s'étend à grande vitesse. C'est même là qu'elle progresse le plus vite. Hein. Plus de 5000 morts déjà. Xavier Yvon, vous êtes notre correspondant en ligne de New York. 5000 morts, c'est plus qu'en Chine. Enfin, que le bilan officiel fourni par les autorités chinoises. Car ce soir, les services de renseignement américains disent à leur tour que les Chinois ont menti.
Oui, la Chine a caché l'étendue de l'épidémie chez elle en minimisant sciemment ses bilans, en mentant sur le nombre de morts et de cas. C'est ce qui ressort d'un rapport des services de renseignement américains révélé en partie par des parlementaires qui ont pu le consulter. La Chine a dissimulé la gravité de ce virus pendant des mois, a dit l'un d'entre eux très en colère. Et le monde, ajoute-t-il, paye à présent pour leurs erreurs. La Maison Blanche, qui continue à travailler avec Pékin pour lutter contre le virus, n'est pas aussi virulente dans ses critiques. Mais la coordinatrice de la cellule de crise nationale explique que oui, les données chinoises faussées ont conduit les autres pays, dont les États-Unis, à sous-estimer la menace.
Xavier, on le disait, aujourd'hui l'épidémie aux États-Unis prend des proportions gigantesques avec des conséquences économiques énormes.
Oui, avec un nouveau chiffre historique et astronomique, plus de 6 millions d'Américains se sont inscrits au chômage la semaine dernière. C'était 3 millions la semaine précédente, alors qu'on était en plein emploi ici aux États-Unis avant la pandémie. Et ce n'est que le début de cette vague de chômeurs qui va déferler avec des conséquences désastreuses. Ici, il n'y a pas de filet social comme on le connaît en Europe. La plupart des Américains sans travail se retrouvent du jour au lendemain sans revenus. Les files d'attente aux distributions alimentaires s'allongent. On estime que 40% des New-Yorkais pourraient ne pas pouvoir payer leur loyer. Beaucoup attendent avec impatience en fait le chèque promis par le gouvernement américain dans le cadre de son plan d'aide économique. Les autorités réfléchissent même maintenant à un programme géant d'infrastructures pour recréer les emplois perdus.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Sans surprise, le trafic aérien subit de plein fouet les effets de cette crise. Il a chuté de 14% dans le monde en février. Plus forte chute depuis les attaques du 11 septembre. Et cette baisse devrait encore s'intensifier avec la fermeture de nombreux aéroports. La compagnie allemande Lufthansa a mis 60% de ses salariés au chômage partiel. Il est temps de jeter un œil sur notre météo et c'est avec vous bien sûr, Anissa Haddadi. Pour demain, Anissa, ce sera humide au nord, plus agréable au sud.
Oui, effectivement, Isabelle, avec sur toute la moitié sud demain, le soleil qui s'impose enfin. Alors nous aurons tout de même en début de journée sur les Pyrénées quelques petites pluies résiduelles qui disparaîtront au fil des heures. Sur le golfe du Lion, le Mistral et la Tramontane vont se lever et souffler jusqu'à 70 km/h. Sur le reste du pays, le ciel est assez nuageux demain, avec d'ailleurs sur la Bretagne, la Normandie et la région Grand Est des petites pluies passagères. Vous l'avez compris, demain sera donc une journée assez mitigée avec un temps agité avant un très beau week-end. C'est vrai que samedi et dimanche, nous aurons du soleil dans un ciel sans aucun nuage. Les températures, elles sont toujours froides le matin avec des gelées. Moins 2 à Aurillac, moins 3 à Brive-la-Gaillarde, moins 1 à Clermont-Ferrand et Belfort, 1 degré à Strasbourg, 5 pour Marseille et La Rochelle, 7 à Paris et 9 à Perpignan. Et puis au meilleur de la journée, dans l'après-midi, 10 à 13 dans le nord-ouest, 12 à 17 sur le reste du pays et jusqu'à 18 à 20 degrés au bord de la Méditerranée.
La météo signée Anissa Haddadi. Europe 1. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse ce soir avec Claire Lemaître de boursier.com, juste avant l'invité écho de Carole Ferry qui reçoit ce soir le PDG des tissus Saint James. Son entreprise s'est reconvertie dans la confection de masques contre la diffusion du coronavirus. A tout de suite sur Europe 1. Et à 22h16 sur Europe 1, comme tous les soirs, on va s'intéresser maintenant à la bourse. Et ce soir, c'est avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Avec beaucoup d'hésitation ce soir à Wall Street, malgré une flambée véritable du pétrole.
Oui, et c'est finalement la hausse qui l'emporte. Le Dow Jones monte même de 2,24%, 21 413 points. Le Nasdaq, lui, gagne 1,72%, 7 487 points. Les marchés dopés par le vif rebond du pétrole, le baril de brut WTI décolle de plus de 20% à New York. Une flambée déclenchée par Donald Trump. Le président américain évoque un possible accord entre la Russie et l'Arabie Saoudite pour mettre fin à la guerre des prix du brut. Le problème, c'est qu'on a aussi un chiffre catastrophique pour le chômage aux États-Unis. Plus de 6,5 millions d'Américains se sont inscrits au chômage la semaine dernière à cause du coronavirus. De quoi vraiment s'inquiéter de l'impact sur l'économie. Alors ce soir, on retient la forte hausse des valeurs pétrolières. Chevron grimpe de 11%, ExxonMobil de 7%, Schlumberger de 10%. Et puis du côté des devises, l'euro perd 1% et s'échange contre 1,0843.
Et puis encore une séance très hésitante, Claire, à Paris. Le CAC 40 réussit tout de même à gagner quelques points.
Oui, encore beaucoup de volatilité. Là aussi, finalement, le CAC 40 s'adjuge 0,33%, 4 220 points. Le secteur pétrolier profite bien sûr de la flambée des cours du brut. Le géant Total monte de 3%, plus 15% pour Technip, FMC et Vallourec, plus 20% pour le titre CGG. Bouygues avance de 4,5%. Bouygues qui renonce à ses objectifs pour 2020. Seuls les résultats de sa filiale Bouygues Télécom, moins affectés par la crise sanitaire, reste suspendue en attendant une meilleure visibilité.
Et puis Dassault Systèmes signe la plus forte baisse du CAC 40.
Moins 5,1% pour l'éditeur de logiciels qui revoit comme beaucoup d'autres ses prévisions d'activité. Et puis du côté des valeurs bancaires, la mauvaise passe se poursuit pour Natixis qui plonge encore de près de 12% ce soir. La hausse du pétrole a permis au marché européen de terminer dans le vert, plus 0,5% pour Londres, plus 0,3% pour Francfort, plus 1,1% pour Zurich, plus 1,7% pour Milan, Madrid est stable et le CAC 40 gagne 0,3% à 4 220 points.
Eh bien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Claire Lemaître de boursier.com, on vous dit à demain. Et il est temps de retrouver l'invité écho, Carole Ferry. Vous recevez ce soir le PDG des Tissus Saint James.
Luc Le Sénécal, bonsoir.
Bonsoir Carole Ferry.
Vous êtes le président des Tricots Saint-James, du nom d'une petite commune de la Manche, tout près du Mont-Saint-Michel en Normandie. On connaît bien vos pulls, vos marinières, mais alors en ce moment, eh bien, fabriquez surtout des masques. Comment tout ça a démarré? À quel moment vous avez décidé de fabriquer des masques en tricot à la place des marinières?
Absolument, nous venons de fêter nos 130 ans. Nous sommes entreprise du patrimoine vivant, donc avec un savoir-faire spécifique en tricotage et en confection. Ce qu'on a voulu faire lorsque nous sommes retrouvés en chômage partiel, nous avons voulu essayer de nous rendre utiles. On a été très vite mis en contact avec le centre hospitalier du Mont-Saint-Michel, donc principalement Avranches et Granville, pour essayer de fabriquer un masque. Donc on s'est inspiré dans un premier temps du cahier des charges qui avait été élaboré par le CHU de Grenoble. Ce ne sont pas des masques FFP2, ce sont des masques à usage des professionnels en contact avec le public, catégorie 1.
Ce sont des masques qui évitent de contaminer les autres.
Absolument. Donc ce sont des masques constitués de 3 couches de coton, dont 2 issus de nos cotons, issus de nos marinières, et à l'intérieur, nous avons mis un filtre protecteur avec un coton base molleton. Donc c'est un tricouche, si vous voulez.
Et donc c'est en coton lavable et réutilisable.
Absolument. On recommande, d'après la réglementation, et notre expérience maintenant, de les laver toutes les 4 heures à 60 degrés en machine et de les repasser pour pouvoir les réutiliser. Et on est en train de faire des tests de lavage. On a passé 50 lavages. Ils sont toujours aussi filtrants.
Et alors tout ça est très sérieux, hein, puisque vous avez reçu l'homologation de la Direction Générale de l'Armement. Ils sont testés comment c'est...
Absolument. Donc nous avons emmené à Paris 6 échantillons qui ont été testés par la DGA. Donc ce sont des échantillons de masques, un petit peu nos prototypes. Ils sont testés 2 fois, c'est-à-dire ils sont testés tels qu'ils sont, et ils sont testés après 5 lavages.
Ça a été compliqué d'adapter les chaînes de production, c'est compliqué de passer des marinières aux masques.
Alors oui, c'est assez compliqué. Dans un premier temps, il a fallu mettre en sécurité sanitaire le personnel volontaire. Et on a fait venir une vingtaine de personnes spécialisées dans la couture. Avec pour fabriquer ces masques, on a besoin de ce qu'on appelle de personnes qualifiées, des surjetteuses pour le surjet, c'est un type de couture, et de piqueuses pour le piquage. Ensuite, on a dédié des machines à coudre à ces personnes-là, espacées de plus de 3 mètres, pour les mettre aussi en sécurité sanitaire. Ensuite, le prototype nous a pris à peu près 2 jours pour le mettre au point, le tester donc avec le centre hospitalier du Mont-Saint-Michel et ensuite emmener ces échantillons à la DGA.
Et alors, qui vous les achète? C'est quoi le modèle économique?
Alors, le modèle économique, pour l'instant, pour pas avoir à juger, savoir qui était prioritaire, on travaille en collaboration avec le centre hospitalier d'Avranches, qui répartit les masques en fonction des besoins des différentes personnes liées au corps médical. Dès cette fin de semaine, on aura livré gratuitement 7000 masques.
Voilà, vous les fournissez gratuitement.
Dans un premier temps, gratuitement. Après, nous allons les vendre aux industriels prioritaires parce que nous avons fait revenir des salariés volontaires, mais maintenant nous les rémunérons, ces salariés. Donc nous allons calculer un prix spécial, si vous voulez, pour au moins qu'on s'y retrouve dans notre prix de revient et qu'on ait les moyens de payer nos salariés, puisque toutes les autres activités de Tricot Saint-James sont à l'arrêt.
Alors Luc Le Sénécal, vous êtes également président de l'Union des métiers d'art et du patrimoine vivant. Ce sont les entreprises reconnues par l'État pour leur savoir-faire d'excellence dans le domaine de l'artisanat ou de l'industrie. C'est important parce que ces entreprises, il y en a d'autres comme vous, qui ont décidé de changer leur production pour répondre aux besoins du moment.
Absolument. Je peux pas tous les citer, mais puisque nous sommes en Normandie, vous avez Parapluie de Cherbourg qui est connu, qui a transformé ses ateliers de parapluie en ateliers de masques. Vous avez à Caen l'entreprise Filt, qui à la base fait des filets à provision en tricot, qui s'est mis à fabriquer des masques. Donc il y a une parfaite solidarité, et le but, c'est qu'on agisse local. Et dans chaque région, la filière textile se mobilise pour fournir les masques à niveau régional.
Vous pensez continuer à en fabriquer combien de temps? Vous voyez la reprise comment derrière?
Alors, malheureusement, non, on ne connaît pas et personne ne connaît encore la sortie du confinement. Nous, nous avons 90% de nos points de vente qui sont fermés dans le monde.
Et vous réalisez 40% de votre chiffre d'affaires à l'international?
On réalise 40% de notre chiffre d'affaires à l'international, un tiers en Europe, donc là où tous nos points de vente sont fermés, un tiers aux États-Unis, donc également tout est fermé actuellement, et un tiers en Asie, donc il y a une reprise un petit peu d'activité au Japon, en Corée, et on nous a demandé quelques livraisons en Chine ces dernières 24 heures. Donc on sent une reprise en Asie, mais en France nous avons 500 points de vente entre nos propres boutiques et nos revendeurs, et ces derniers sont fermés, donc on est très très inquiet. Bon, malgré tout, c'est peut-être aussi une belle prise de conscience de l'importance du tissu économique français. Il faut mettre à profit ce confinement, ces réflexions, ce télétravail pour réfléchir à une autre approche du métier en ce qui concerne Tricot Saint-James, du métier textile en général.
Merci beaucoup, Luc Le Sénécal. Je vous souhaite une excellente soirée.
C'est moi qui vous remercie. Excellente soirée à tous.
Et merci à vous également. Carole Ferry, retour de l'interview Echo, demain, même heure sur Europe 1.